Atelier des médias, c'est la deuxième partie sur Radio France Internationale. Nous retrouvons dans une vingtaine de minutes notre chroniqueur sage, Francis Pisani. Nous sommes aujourd'hui avec Pierre Bélanger. Pierre Bélanger, fondateur et président directeur général de Skyrock, qui vient de publier un livre qui a pour titre « La souveraineté numérique ».
L'atelier des médias. La web émission participative. RFI. Ziad Malouf. Simon de Creuse.
Et vous.
Pierre Bélanger, dans la première partie, nous avons un petit peu dressé le tableau de la situation. Vous l'analysez de manière assez profonde dans le livre, cette situation, et vous commencez par expliquer en gros comment fonctionnent les réseaux. C'est passionnant. Vous rappelez que les réseaux fonctionnent selon trois dynamiques. C'est très important parce que ça donne une idée de l'évolution possible aussi du monde. Il y a d'abord ce qu'on appelle la loi de Metcalf qui est...
Oui, alors la loi de Metcalf, c'est donc Robert Metcalf, qui est toujours vivant, qui est un grand acteur de l'Internet et des réseaux, qui a dit que la valeur d'un réseau est équivalente au carré du nombre de machines qui y sont connectées, et cette règle s'applique aussi à la machine elle-même. Donc je vous donne un exemple tout simple, parce que généralement quand on dit ça la première fois, les gens ont l'impression qu'on leur lance une brique dessus. Donc le principe est simple, vous avez 10 machines, elles sont connectées en réseau. Bon, la valeur d'une machine va être 10 au carré. Alors 10 au carré, c'est 10 fois 10, ça fait 100. Bon, vous rajoutez une machine, ça fait 11 machines. La valeur de chaque machine va être 11 au carré, hein, ça fait 121. Donc vous avez multiplié en fait la valeur, vous avez accru en fait de 21% la valeur de chaque machine en accroissant la taille du réseau de simplement 10% en rajoutant une machine. Donc vous avez un effet en fait qui est ce qu'on appelle l'effet réseau, c'est-à-dire quand vous rajoutez une petite chose, vous avez un grand effet, vous avez une démultiplication. Bon, donc ça c'est très très important, cette loi de Metcalf.
Parce que vous parlez de machines, mais en fait les machines ce sont les téléphones, ce sont les objets connectés.
Alors, au réseau des réseaux, qui est Internet, donc déjà vous avez un effet réseau. Quand vous agrégez des réseaux, vous faites le réseau des réseaux, vous avez déjà une nouvelle multiplication de cet effet. Ce réseau des réseaux, c'est Internet. Bon, et de surcroît, en fait, cette loi des réseaux, elle s'applique aux machines. Et il y a des centaines de milliers de machines qui rejoignent le réseau chaque jour, mais elle s'applique aussi aux données. Elle s'applique aussi aux services. Donc, si vous avez un réseau de services, il y a un réseau logiciel qui a plus de 120 services. 120 services, ça fait 120 au carré. Donc, si vous arrivez avec, par exemple, un logiciel, une formidable application de cartographie, vous êtes super fier. Bon, vous allez vous heurter à un service de carte qui est connecté à 120 autres et qui donc va avoir une puissance, je dirais, vis-à-vis de vous, qui fait que vous ne pouvez pas vous en sortir.
Autre loi essentielle, c'est la loi de Moore, qu'on a déjà évoquée plusieurs fois dans l'atelier des médias. Donc c'est en gros tous les 18 mois, à taille et peut-être valeur constante.
Alors cette loi de Moore, elle a été, je dirais, critiquée parce que ça, on a dit 24 mois, on a dit 36 mois, on a dit 18 mois,
on
etc.
On a dit que ça ralentissait maintenant.
Elle se tient à peu près sur 18 mois, et c'est de dire la puissance de calcul, c'est-à-dire le nombre de transistors qu'on peut mettre sur un processeur, double à peu près tous les 18 mois, c'est-à-dire que pour le même prix, on a le double de puissance de calcul tous les 18 mois.
Et l'application, si on se met dans le même contexte que ce que vous venez de décrire, c'est qu'en gros, les machines vont pouvoir traiter de plus en plus de données, devenir de plus en plus intelligentes.
Voilà, donc la machine, alors ça touche l'unité de calcul, le microprocesseur, mais indirectement, ça va toucher le stockage, ça va toucher la bande passante, c'est-à-dire les flux. Donc c'est toute la mécanique et la puissance de calcul du réseau qui double tous les 18 mois. Et vous rajoutez à ça Metcalf, et puis après on arrive effectivement au troisième truc, alors qui est le bouquet final.
Qui est le calcul de Grotschel.
Qui est le calcul de Grotschel, donc lui c'est le moins connu, mais c'est le plus important. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, sur les 15 dernières années, vous avez eu un progrès d'un million de fois. Bon, maintenant, sur la loi de Grotschel, c'est 43 fois plus rapide. Et donc en fait, vous allez voir que le logiciel, en fait, va être plus rapide. Donc c'est ça qui fait ce million. Le logiciel, les processeurs, le réseau, vous voyez que vous avez là une dynamique qui est absolument incroyable. C'est ça qui donne ce chiffre de 43 millions en 15 ans de progrès grâce au logiciel. Et vous prenez toutes les grandes technologies, à un moment donné, elles arrivent à leur pic de productivité. Là, ça ne s'arrête pas.
Et c'est exponentiel et c'est pratiquement incompréhensible, parce que là, sur 15 ans, ça a évolué de manière incroyable, mais là, chaque année, ou presque tous les 18 mois, ça va encore évoluer.
Voilà, avec des algorithmes qui sont auto-apprenants, donc qui vont évoluer. Bon, donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est magique, c'est merveilleux, c'est positif, c'est en fait absolument extraordinaire. tant que on en a la maîtrise. Donc la question, c'est la question de la maîtrise. C'est pas la question de savoir à quelle vitesse va la voiture, c'est la question qui est au volant.
Et donc, face à cette logique de réseau, c'est tout le monde, tout l'univers de l'Internet qui évolue, avec des acteurs qui grossissent, qui deviennent donc des réseaux de services, puis qui maintenant sont en train d'investir dans le réseau lui-même. Donc, on pense à Google et à tous les autres qui maintenant investissent dans le réseau et nuisent d'ailleurs à ce qu'on appelle la neutralité, dont ils sont censément les grands défenseurs, mais en même temps, puisqu'ils investissent dans le réseau, nécessairement, ils se favorisent d'une manière ou d'une autre.
La neutralité du net, c'est un piège à démocrates. Bien entendu, nous sommes tous pour qu'il n'y ait pas de censure. Nous sommes tous pour que les contenus, les informations puissent circuler librement, sans entrave et sans discrimination sur le réseau. C'est impossible d'être opposé à ça quand on a un goût de la liberté. Maintenant, qu'est-ce que ça cache, ça? Ça cache cette idée de dire au réseau, rester stupide, c'est la condition de la démocratie. C'est-à-dire, n'interférer d'aucune manière. Donc, finalement, ne développez pas de service, ne développez pas, en fait, une intelligence du réseau qui vous permettrait d'être partie prenante. Alors, on peut avoir un réseau intelligent qui ne discrimine pas. Mais toute l'astuce de la neutralité du net était d'associer la bêtise des réseaux à la liberté, en disant, puisqu'ils sont bêtes, nous serons libres. Ils peuvent être intelligents et nous sommes libres aussi. Mais ça, ça n'a pas été dit au départ. Donc, la neutralité du net, elle a été défendue par les grands acteurs de l'Internet.
Google, Facebook, etc.
Tant qu'ils en avaient besoin, puisqu'ils n'avaient pas développé leurs infrastructures. À partir du moment où ces services développent leurs infrastructures, et on vous parlait de Google, il y a un plan qui s'appelle Google Fiber, où il est en train de fibrer directement le territoire, ou mettre des services Wi-Fi.
Google
vous
Wi-Fi,
avez,
à San Francisco.
Vous avez, oui, ben, c'est accessible uniquement aux Android. Donc bravo à neutralité
téléphone,
du net.
Téléphone, donc, avec une OS Google.
Voilà, donc si vous voulez, vous êtes dans des logiques où la neutralité du net, c'est un moyen de contenir les groupes de télécommunications pour les empêcher d'évoluer le temps que ces grands acteurs du réseau puissent développer leurs infrastructures.
Et la grande bataille au sein de ces réseaux de logiciels, de ces algorithmes, c'est la bataille de l'OS, donc le cœur de ce réseau, l'OS, donc c'est l'outil qui va permettre...
C'est Operating System en anglais, c'est système d'exploitation
en français.
En fait, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation? Le système d'exploitation, c'est le logiciel, donc l'ensemble des instructions qui permettent de faire fonctionner la machine. Ensuite, vous avez des applications, mais ce qui fait tourner la machine, ce qui fait que votre clavier parle à votre unité centrale et qui fait afficher des choses sur votre écran, ce qui pilote ça au départ, c'est ce système d'exploitation. Bon, ce système d'exploitation, c'est la clé. Pourquoi? Parce que vous avez besoin des données. Vous avez besoin des données parce que ces données ont de la valeur. Tout obstacle dans cette aspiration de données doit être surmonté, contrôlé, maîtrisé. Les premiers souverains du numérique, ce sont ces groupes-là. Donc vous devez d'abord contrôler le terminal, puisque c'est ça que touche l'utilisateur, c'est ça qu'il possède. Ensuite, son système d'exploitation, ensuite le réseau par lequel les informations transitent, ensuite l'ensemble du réseau de services et le déploiement de ces services sur un parc de serveurs. Et donc, vous avez là une chaîne totale que vous souhaitez contrôler. Et le système d'exploitation, il est capital parce que... Si vous contrôlez le système d'exploitation, vous contrôlez le déploiement de tous les appareils connectés. La voiture connectée, elle fonctionnera sur un système d'exploitation issu du mobile. Et ça vaut à ce moment-là pour l'affichage urbain, ça vaut à ce moment-là pour toute la signalisation urbaine, et finalement, ça vaut toute la robotique qui va arriver, va être sous ces systèmes d'exploitation.
Et donc cet écosystème, ce réseau-giciel, comme vous l'appelez, c'est un néologisme réseau-giciel, sa force, c'est qu'il collecte des données, toutes sortes de données, particulièrement des données personnelles sur nos mouvements, nos amis, nos connexions, on appelle aussi ça des métadonnées, donc ils peuvent savoir un peu comment les données s'organisent entre elles, et grâce à de nouvelles techniques, et grâce aux algorithmes, et grâce à ce qu'on appelle le data mining, donc l'exploration de ces données, on acquiert une puissance qui est... inimaginable, en fait.
Oui, alors, la définition de Claude Shannon, qui est un des pères de la théorie de l'information, en disant qu'est-ce que c'est l'information, c'est ce qui réduit l'incertitude. Bon. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et quand vous êtes une entreprise, par exemple, vous faites une campagne publicitaire, vous vous dites, bon, bah, je vais mettre un peu des messages partout, je sais pas vraiment ce que ça va passer, une partie qui va marcher, je ne sais pas, etc. Donc, comment nous avons résolu le problème de l'incertitude au XXe siècle? par le gaspillage. C'est-à-dire en multipliant les moyens, en disant c'est comme si on jouait en fait à la roulette et on mettait des jetons sur toutes les cases. Ça, c'est notre méthode avec un gaspillage infini.
Mais optimisé, parce qu'on essaye d'analyser le marché,
on réduit cette incertitude. Mais on a fait que la réduire, au sens où vous voulez acheter un journal, il est quelques dizaines de milliers de points de vente sur tout le territoire, mais vous ne savez pas dans quel point de vente il va être acheté. Qu'est-ce que fait la donnée ? La donnée, elle réduit l'incertitude, donc elle réduit le gaspillage, donc elle réduit la dépense. Donc c'est pour ça que la donnée a de la valeur. Et donc, cette valeur de la donnée qui est collectée sur vous en permanence va permettre d'avoir un joueur qui, lorsque vous allez jouer avec lui dans une compétition, en fait, va voir votre jeu, va voir vos cartes. Et c'est un peu comme la météo. Imaginez que il n'y ait qu'un groupe agroalimentaire qui ait les connaissances de la météo à 15 jours et un mois. Et qui se bat contre d'autres. C'est ça. Donc, on a aujourd'hui une sorte de grande partie de cartes où il y a un joueur, quelques joueurs qui voient les cartes des autres.
Parce qu'en recoupant des données qui parfois même n'ont pas grand chose à voir, on peut sortir des lois, des règles, anticiper certaines
choses.
Très bien.
Tout à fait. Par exemple, prenez le cas de la banque. La banque accorde des prêts. Elle essaye de prêter au maximum, puisque effectivement, plus elle prête, plus elle a un rendement sur ses prêts. Maintenant, plus elle prête, plus elle a un risque de ne pas être remboursée. Donc, elle trouve un équilibre. Il y a des questions qu'elle peut poser, des questions qu'elle peut pas poser. Par les réseaux sociaux, par Internet, vous pouvez avoir des informations qui vont vous donner un profil de gens, des personnes qui remboursent et de ceux qui ne remboursent pas ou remboursent mal. Par exemple, vous utilisez le terme barbecue. Si vous utilisez le terme barbecue, bah ça veut dire que vous avez probablement une vie sociale, vous avez peut-être un jardin, vous êtes peut-être invité, ça veut dire un certain niveau. Vous avez une probabilité de remboursement qui s'accroît. Si vous utilisez le terme avocat ou divorce, par exemple, ah là, ça veut dire que vous êtes peut-être dans des problématiques, des conflits, etc. Si vous faites des réservations de voyage, vous faites des réservations de voyage très tardivement. Ah, ça veut dire que vous planifiez pas dans le temps. Donc peut-être, et vous avez vous apercevoir.
Et surtout
que...
en recoupant toutes ces données.
Voilà, en recoupant toutes ces données, en faisant des corrélations, etc., en créant des modèles à partir de ces données, simplement par la trace quotidienne que vous laissez, sans jamais avoir à un moment donné parlé de remboursement ou de prêt bancaire, on va vous accorder un prêt ou non, et on va vous mettre en fait des pénalités ou un taux plus élevé ou une assurance plus élevée, simplement à partir de ce recueil d'informations. Ça, c'est pas possible sans qu'il y ait une vraie maîtrise des individus et une maîtrise, je dirais, légale sur ce sujet.
Et tout ça nous mène, à vos yeux, vers une tempête. Pourquoi, je vous cite, une jeune subclasse moyenne est-elle en train de naître entre frugalité, débrouille et usage intensif du réseau, et que pour elle, l'emploi continue, la famille installée, la propriété du logement, la couverture santé, la sécurité matérielle sont désormais inaccessibles. La réponse est claire, il ne s'agit pas seulement du coût du travail des pays émergents, d'ailleurs en augmentation, il s'agit également de la compétition accrue des machines, de l'automatisation et des algorithmes. Il s'agit d'une révolution anhumaine.
Oui, c'est ça. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis issu d'une génération qui est celle du baby-boom, c'est-à-dire les gens qui sont nés entre 46 et 64. Et donc, mes concurrents, j'étais dans des classes où il y avait 50 élèves. Mes concurrents, ils étaient à côté de moi. Ils étaient en culotte courte à côté de moi sur les bancs de l'école. Bon. Aujourd'hui, vous prenez la même classe. Leurs concurrents, ce sont des serveurs un peu partout dans le monde et des machines auto-apprenantes qui sont capables d'enregistrer et de restituer en quelques secondes à peu près les 15 ans de scolarité. Bon, donc on est là dans une compétition, effectivement, qui dévalorise le travail. Bon, cette dévalorisation du travail, elle s'ajoute à la crise économique. La crise économique, c'est une suppression de postes. Ces postes reviennent quand la prospérité revient. Là, on est dans une crise numérique, c'est-à-dire une crise non pas de destruction d'emplois, mais de destruction de postes. Ce sont les postes même qui disparaissent. Donc, vous voyez émerger, en Europe, cette subclasse, en effet, de personnes qui, compte tenu de cette situation, n'ont plus accès à la société telle qu'on l'a connue. Bon, et c'est pour ça qu'on parle beaucoup des pays émergents. Moi, j'ai parlé des pays immergents, c'est-à-dire vous avez en Europe aujourd'hui des pans entiers de la société qui s'immergent hors des systèmes sociaux, hors des systèmes de fiscalité, monétaire, etc. On est à 10-15% de l'économie qui commence à rentrer dans ces systèmes-là, d'économie parallèle, d'économie alternative, d'économie sur réseau. Toute l'économie collaborative, elle est sur ce registre-là, c'est-à-dire... Puisqu'il n'y a plus accès au système, eh bien, il y a un autre système qui est en train de se créer.
Vous parlez de l'Europe. L'Europe, je vous cite, est le pays de cocagne du vol de données. Imaginez 500 millions d'habitants, 13 trillions d'euros de produit intérieur brut, supérieur à celui des États-Unis et triple du PIB chinois, et aucune réglementation efficace sur les données. Le portique à la sortie du magasin européen ne sonne jamais, et en cas de contrôle, on finit toujours par s'arranger avec le vigile bruxellois. Plus de peur que de mal.
Oui, c'est ça. Vous avez
une Europe qui donne quand même des signes positifs.
Une Europe qui se réveille. Donc ouais. C'est là, parce que faut en
revenir. Dans l'actualité, tout récemment, l'obligation à Google d'offrir un droit à l'oubli aux utilisateurs.
Sachant que c'est Google qui le décide. Donc c'est absolument terrifiant. C'est-à-dire que on considère qu'il y a un droit et que c'est un acteur privé qui doit l'exécuter. Donc là, je dirais, on marche.
Mais c'est quand même une évolution.
C'est une évolution. C'est une évolution qui est extraordinairement dangereuse puisqu'on donne à une société privée un droit sur les individus.
Et on doit justifier vis-à-vis de sa société pourquoi on le.
Donc c'est du seigneurage. C'est extrêmement grave. C'est une sorte de féodalité numérique absolument répréhensible. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui il y a un réveil en Europe, il y a un réveil en Allemagne, il y a un réveil au Brésil,
il y a un réveil en France aussi.
Et il y a cette idée qui est de dire, voilà, il faut récupérer, retrouver notre souveraineté sur nos données. Ça veut dire la localisation des serveurs, ça veut dire un nouveau statut des données, ça veut dire un cryptage des échanges. Le pays se réveille.
Je l'ai dit, ce livre donc dresse un constat qui est pour le moins alarmant, qui est très clair, qui donne énormément d'informations. Il propose aussi des solutions. Vous avez choisi d'axer ces solutions sur la France, un petit peu plus sur l'Europe, et puis peut-être de vous adresser aux décideurs, aux gouvernants, je vous cite, face à ce défi, notre souveraineté numérique est la clé de voûte de notre maintien en tant que puissance et du devenir de notre prospérité et de nos libertés.
Oui, donc j'ai beaucoup de chance avec ce livre. En fait, tout le monde s'en fout au départ, la souveraineté numérique, mais quoi, qu'est-ce que c'est ce truc, etc. Il se trouve que maintenant, ça touche l'emploi. L'emploi est au cœur des politiques. Aujourd'hui, vous dites, on entend, relançons la croissance et ça relancera l'emploi. Vous avez une relance de la croissance aux États-Unis sans que l'emploi redémarre de manière corrélée. Pourquoi ? Parce que effectivement, c'est une crise numérique. Donc aujourd'hui, la croissance ne tire plus l'emploi. Donc il va falloir finalement tirer des leçons de cette révolution. Et c'est les gouvernants, ceux qui sont en poste actuellement et ceux qui suivront. Donc on est sur une échelle, je dirais, de maintenant à 5 ans, où les décisions doivent être prises de dire on cesse le combat sans même l'avoir commencé ou on réagit.
Et vous proposez donc pour la France ou pour l'Europe, ça dépend, la référence fluctue à certains moments. En tout cas, vous proposez un plan réseau en 12 étapes pour nous protéger, pour protéger la France, protéger l'Europe. Et
surtout développer, en fait. Il ne s'agit pas de construire une forteresse, il s'agit d'abord d'aider les Américains. D'abord, il faut voir que cette question de la souveraineté numérique, elle n'est pas traduite de l'anglais. J'ai pas lu un bouquin qui s'appelait Digital Sovereignty et je l'ai traduit en français. Il y a très peu de concepts neufs qui viennent hors des États-Unis sur l'internet. Ça, c'est un concept neuf. Donc, il y a une pensée originale en Europe sur les libertés numériques. Cette pensée originale, elle aide tous les groupes civiques aux États-Unis qui se battent pour ces libertés et qui ont du mal à le faire. Donc nous avons des extraordinaires alliés aux États-Unis et nous sommes les alliés de tous les libéraux américains sur ces questions. Bon, donc déjà il y a ça. Au niveau français, nous pouvons faire des choses. Bon, ce que je crois, c'est que on est dans une dynamique où un pays peut donner l'exemple, lancer une dynamique, après s'associer à d'autres, probablement s'associer à l'Allemagne et ensuite avancer. Je ne crois pas qu'une réunion en 26 langues permette de faire bouger les choses au départ. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut se lancer et on sera suivi.
Et est-ce que le danger d'en appeler à un État, à la France en l'occurrence, mais c'est un conseil que vous pourriez donner à plein d'autres pays, est-ce que justement le danger c'est pas de créer des sortes de nationalisme numérique et puis finalement de fragmenter le réseau dont la valeur est justement qu'il n'est pas fragmenté ou en tout cas qu'il ne devrait pas l'être ?
Alors le réseau c'est déjà un nationalisme américain au départ, donc on est sous l'empire d'une nation qui contrôle toute la nomenclature, qui contrôle le code, qui contrôle l'intégralité des dispositifs. Donc on est déjà au sein de l'empire américain. Je dis pas ça de manière négative, c'est un simple fait. Bon, nous récupérer notre souveraineté, ça ne veut pas dire s'enfermer, encore une fois. On a la chance d'être dans un réseau. Et il y a une des lois du réseau, que c'est le plus rapide qui gagne, pas le plus gros. Ça, c'est notre chance. Ça veut dire que si on fait un réseau qui est plus libre, qui respecte mieux les personnes, ces réseaux-là et ces logiques et les services qui vont développer vont se répandre dans le monde entier. Nous sommes dans une logique impériale, nous aussi, de fait, mais comme n'importe quel pays peut l'être. Donc, aujourd'hui, on n'est pas du tout dans des logiques de dire « attention, vous recréez, vous enfermez, vous nationalisez, etc. » On est dans des logiques où chacun peut adhérer, chacun peut rejoindre. Donc, on est dans des logiques plutôt de services en compétition plutôt que de nationalisme qui se referme.
Merci Pierre Bélanger. Je rappelle le titre de votre livre publié aux éditions Stock. C'est la souveraineté numérique. On trouvera sur l'atelier des médias la version longue de cet entretien et des liens et des informations complémentaires concernant ce sujet. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Ça suffit Internet Stan, tu dois aller dormir.
5 minutes, il y a encore des trucs à faire.
Chérie, déconnecte Internet et va te coucher. Randy, tu peux te déconnecter.
Mais Sharon, je dois envoyer un email à
l'atelier des médias.
Stan, j'ai besoin de ton ordinateur.
Papa, il y a Internet qui veut plus marcher.
On n'a plus Internet, on n'a plus rien.
Comment on faisait pour avoir des infos avant qu'il y ait Internet?
Atelier@rfi.fr.
Clic, 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 clic. Très bien, Internet. Qu'attendez-vous de nous?
RFI.
Bonjour Francis Pisani.
Bonjour Ziad Mahalouf.
Comment ça va?
Très bien, et toi?
Ça va très bien, merci beaucoup. À quelques jours du Mondial de football qui débute la semaine prochaine, Francis, tu souhaites nous expliquer que le Brésil, en plus d'être une terre de ballons ronds, est aussi un pays de villes qui changent.
Absolument, et en fait, alors que les Brésiliens se demandent si leur pays a fait une bonne opération en organisant le Mondial, puis les Jeux Olympiques, IBM se sert de tout ça comme une vitrine de sa conception des villes intelligentes grâce à un centre de contrôle installé au cœur de Rio de Janeiro. Le centre d'opération de Rio, ou COR, que le maire Eduardo Paes préfère qualifier de centre de commande et de contrôle, c'est-à-dire CCC, ce qui est très révélateur de ce dont il est question. Mais il le dit quand il écrit dans la presse américaine, ce qui compte, c'est que c'est la version la plus avancée des smart cities telles que les conçoivent les grandes compagnies. En fait, si tu veux quelques détails sur ce centre, mais je n'en abuserai pas, il a été conçu et réalisé par IBM avec une poignée de partenaires. Et c'est la première fois qu'on arrive à intégrer tous les services d'une municipalité de cette taille, en fait plus d'une trentaine. Il permet de centraliser les informations et de prendre les décisions. Les données arrivent des quatre coins de la ville et sont recueillies de toutes les façons disponibles. Et il paraît, j'y suis pas allé, alors qu'il m'arrive d'aller dans beaucoup d'endroits comme tu le sais, que 70 employés vêtus de blanc s'y agitent devant des murs d'écran comme dans un labo ou comme dans un centre d'exploration spatiale. IBM fournit des logiciels qui en tirent du sens, pour reprendre une expression d'un des responsables de l'opération qui s'appelle Guru Banavar. Et ce monsieur ajoute, quand vous avez l'information, que vous la comprenez et que vous savez quoi en faire, vous êtes déjà à demi-smart, à demi-intelligent.
Et j'imagine qu'à tes yeux, pour les villes intelligentes, l'information est quelque chose d'essentiel.
C'est essentiel, bien sûr, mais c'est pas suffisant. Et donc, c'est pour ça que je trouve que l'exemple brésilien est intéressant, parce qu'il y a une opération d'une ville différente qui s'appelle Curitiba, qui se trouve pas très loin de Saint-Paul, et qui a commencé à pratiquer, sous l'impulsion de son ancien maire, Jaime Lerner, ce qu'on appelle l'acupuncture urbaine. En gros, au lieu de projets gigantesques concernant l'ensemble d'une agglomération, elle s'attaque à la rénovation et à la revitalisation de lieux précis, immeubles, pâtés de maisons, carrefours ou autres. Et dans un article publié sur les blogs de la Harvard Business Review, Monsieur Lerner explique, je cite, qu'il s'agit d'interventions stratégiques ponctuelles qui peuvent créer une énergie nouvelle et contribuer à la consolidation du scénario souhaité. L'acupuncture urbaine consiste à revitaliser une zone malade ou épuisée et ses alentours en touchant simplement un point clé. Comme dans l'approche médicale, cette intervention déclenche des réactions en chaîne positives qui contribuent à guérir et à améliorer le système dans son ensemble.
Comment tu analyses, toi, ces deux approches finalement assez différentes de la conception du futur de la ville?
Je crois, si tu le permets, qu'il faut monter au niveau du concept et de la métaphore. Et d'abord, je vais commencer avec une citation du Guru Banavar, donc le responsable d'IBM, qui vient du secteur de la recherche de cette grosse compagnie, et qui dit, je cite là encore, « Les systèmes grands et complexes m'attirent. Pouvez-vous penser à un système plus complexe qu'une ville ?» Donc en gros, c'est un ingénieur qui s'intéresse à la complexité et qui trouve dans la ville une entité extrêmement complexe. Mais la métaphore médicale me semble utile, même si nous avons du mal à comprendre la solution qu'il propose, elle est utile, comme peut l'être une intervention chirurgicale compliquée, un traitement de chimiothérapie. Mais pour améliorer la ville, la métaphore du métabolisme nous aide à saisir la nécessité de voir le système urbain comme un tout, si nous voulons mieux comprendre et résoudre les problèmes complexes et agir sur eux comme le fait Lerner à Coritiba. En fait, je crois que ce qui est intéressant, c'est que nous sommes nombreux à voir des médecins traditionnels, à passer sur le billard des chirurgiens et à rendre visite à l'acupuncteur et à l'homéopathe. Pour nos villes trop souvent malades, nous avons aussi besoin de ces deux médecines et méfions-nous des tenants d'une seule école. Ce que je trouve amusant, c'est intéressant, c'est que terre de métissage, le Brésil est encore une fois un bel exemple.
Merci Francis Pisani. Je rappelle qu'on peut aussi retrouver toutes tes publications pratiquement sur ton site personnel qui s'appelle francispisani.net. On peut aussi te lire sur les sites de l'Opinion et de la Tribune. On peut enfin découvrir, lire, écouter ton blog sur le site de l'Atelier des médias. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 339 de l'Atelier des médias proposée par Manon Mella, Raphaël Constant, Dilet Sadaoui, Jamel Belayachi, Johnny Bissakonou, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org où vous pouvez depuis quelques jours découvrir le blog Mondial 2014, coordonné notamment par Pierrick de Morel et Alexandre Capron des Observateurs de France 24. Vous pouvez aussi nous retrouver sur libiablog.org et bientôt sur arablog.org. Salut à toutes et à tous, à la semaine prochaine.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, les bonus.
Les bonus.
Ben, ça continue sur Internet.